France Culture.
Le 12 août 1960, un immense ballon de 30 mètres de circonférence est mis en orbite. C'est le premier satellite de télécommunication baptisé ICO-1A. À l'époque, deux acteurs participent à l'aventure. La société AT&T qui développe l'engin et la NASA qui assure financièrement la mise en orbite. 65 ans plus tard, le lundi 28 avril 2025, c'est le lanceur Atlas V de United Launch Alliance qui a permis à Amazon, l'entreprise de Jeff Bezos, de lancer ses 27 premiers satellite. La nuit précédente, c'est Starlink, la constellation d'Elon Musk, qui a réussi son 250e lancement et qui dispose désormais de plus de 6750 satellites en orbite. Il y a trois jours, mardi dernier, le même Elon Musk, via sa société SpaceX, a tenté pour la 9e fois de lancer sa méga fusée Starship, qui a réussi à atteindre l'espace, mais pas à déployer les simulateurs de satellites qu'il transportait, reportant ainsi l'ambition de Musk de coloniser Mars à des horizons encore incertains. Alors en 65 ans, que s'est-il passé? De nouveaux acteurs, assurément. United Launch Alliance a été créé en 2006. SpaceX, c'est la société d'Elon Musk, en 2002. Mais fonctionne-t-il sur une logique financière et partenariale entièrement nouvelle? Faut-il s'inquiéter d'une privatisation de cette course à l'orbite? Si les acteurs privés se livrent à une concurrence féroce, force est de constater que les États restent bel et bien dans la course. De nouvelles ambitions aussi, assurément. En septembre dernier, la Commission européenne a lancé son programme Iris Carré pour investir dans sa propre constellation. Et le 6 mars dernier, François Bayrou a lancé une mission pour une stratégie spatiale nationale afin de rester une puissance de premier rang mondial dans ce domaine à l'horizon de 2040. Alors entre rupture technologique et innovation commerciale, la quête d'un modèle économique capable de justifier la poursuite des ambitions spatiales peut-elle aboutir? Faut-il craindre au contraire dans cette accélération de la compétition un effet de bulle? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette table ronde d'actualité préparée et programmée par Bruno Barada, réalisée par Françoise Delofloc et mise en onde aujourd'hui par Dalia.
Donald Trump, le 20 janvier 2025.
The United States will once again consider itself a growing nation.
Les États-Unis continuent à se considérer comme une nation qui s'étend, qui augmente sa richesse, qui accroît son territoire, qui construit des villes, qui élargit ses attentes et qui plante son drapeau vers de nouveaux et beaux horizons. Nous poursuivrons notre destinée vers les étoiles en envoyant des astronautes américains planter la bannière étoilée sur la planète Mars.
Jeff Bezos, le 5 décembre 2024.
To raise a kilogram of mass from the Earth.
Extraire un kilogramme de masse de la Terre demande 28 fois plus d'énergie que d'extraire ce même kilogramme depuis la Lune. Donc la propension que nous avons d'extraire des minerais de la Lune plutôt que de la Terre d'ici quelques générations nous permettra de construire des vaisseaux, de les alimenter en énergie et de construire des panneaux solaires et tout ce dont on a besoin depuis la Lune plutôt que depuis la Terre. Et cela sera un point de départ pour conquérir le reste du système solaire.
Elon Musk, le 21 mai 2025.
SpaceX fait 10 fois plus que le reste du monde, ou 20 fois plus que la Chine. Et pourtant, la Chine progresse très vite. La raison, c'est que nous construisons la plus grande constellation de satellites de l'histoire. Je crois qu'on opère 80% de tous les satellites actifs actuellement, et nos satellites fournissent de l'Internet au débit et une connectivité partout dans le monde.
Et trois invités sont autour de cette table ronde d'Entendez-vous l'écho. Irénée Regnault, vous êtes essayiste, doctorant à l'EHESS INSA, spécialiste du numérique et des politiques spatiales et co-auteur avec Arnaud Saint-Martin d'une histoire de la conquête spatiale parue aux éditions La Fabrique. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Paul Vorer, vous êtes responsable du programme Espace à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et enfin, Caroline Amiot-Basile, vous êtes avec nous à distance. Vous êtes sous-directrice synthèse, stratégie et observatoire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales au sein de la Direction Stratégie. Et je précise que c'est Wissam El-Kayer qui assure ce duplex et je l'en remercie très chaleureusement. Caroline Amiot-Basile, peut-être pour commencer un tout petit point sur votre fonction et ce à quoi correspond d'être sous-directrice synthèse stratégique et observatoire au CNES.
Mais bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre invitation. Donc effectivement, je suis sous-directrice au sein de la direction de la stratégie au CNES et donc en charge d'activités d'intelligence économique, d'observatoire du spatial, c'est-à-dire tout ce qui va consister à suivre la filière spatiale, à la fois à l'échelle de la France, de l'Europe et à l'échelle mondiale exactement. Et également, et puis on a également dans la sous-direction des activités sur tout ce qui est patrimoine intellectuel CNES et valorisation et la responsabilité de la politique industrielle.
Eh bien, on vous situe mieux. Je vous en remercie, Caroline Amiot. Basile, Paul Vorer a un point pour commencer qui s'impose avant de comprendre la façon dont l'industrie spatiale se configure aujourd'hui. On entendait beaucoup de choses dans ces extraits sonores. On pourrait citer encore d'autres acteurs. D'un côté, on a un acteur comme Amazon, détenu par Jeff Bezos, qui a lancé le 28 avril dernier 27 satellites, les premiers de ce qui doit devenir une constellation. C'est le projet Kuiper. De l'autre, on a Elon Musk qui a assuré le 15 mars dernier que sa fameuse méga-fusée Starship, haute de 123 mètres, serait capable de décoller vers Mars fin 2026. Est-ce que les deux événements relèvent de la même industrie ou à tout le moins de la même logique industrielle? Est-ce qu'on peut tout mettre dans le sac de l'industrie spatiale?
Alors, est-ce que ça relève de la même logique? Un petit peu, d'une certaine manière, ça relève d'une logique qui est très américaine, finalement, qui est ancrée dans une compréhension et dans une représentation de l'espace et du spatial, de l'activité spatiale en général, qui s'inscrit vraiment dans une histoire assez particulière. On parle beaucoup du mythe de la frontière, qui est souvent évoqué à la fois dans les discours politiques et qui s'inscrit profondément dans l'histoire américaine. Et puis, il y a cette volonté qu'on surnomme la destinée manifeste, finalement, d'aller toujours plus loin vers les étoiles et de voir l'espace, finalement. C'est plutôt une vision de l'espace, disons, et un mouvement général en direction de l'espace que des activités parfaitement segmentées, si vous voulez, dans la tête, je suis pas dans la tête d'Elon Musk, mais dans l'esprit de beaucoup de ces entrepreneurs, finalement, l'idée d'aller vers l'espace, d'habiter l'espace avec des humains, d'aller sur Mars, ou dans le cas de Jeff Bezos, par exemple, de créer en orbite de la Terre des plateformes industrielles, tout ça va un petit peu finalement dans le même, fait partie un peu du même mouvement, qui est ce mouvement qui consiste à aller explorer et en fait exploiter ces espaces infinis qui est un petit peu je dirais consubstantiel à la culture américaine finalement et à la manière américaine de voir l'espace. Et quand on va quelque part, forcément on cherche à faire du business, on cherche à faire des affaires et à trouver des choses à exploiter. Et c'est pour ça que tout ça s'inscrit finalement dans un discours qui à la fois parle d'activités extrêmement différentes. Quand on parle de télécommunications spatiales, ça n'a rien à voir avec l'exploitation minière de ressources spatiales sur des astres lointains, ce qui n'a rien à voir non plus avec l'exploration en posant des astronautes, parce que tout ça peut être fait avec des robots, etc. Mais tout ça s'inscrit un petit peu dans un même mouvement qui finalement crée un tout cohérent et une représentation du spatial qui est plus ou moins cohérente dans l'esprit de ces entrepreneurs.
D'ailleurs, Irénée Regnault, vous avez tenté le jeu et vous avez tenté dans votre ouvrage qui retrace une histoire de la conquête spatiale, je le disais, de définir le spatial. Il s'agit, nous dites-vous, d'un champ relativement autonome d'organisation et d'activité qui emploie des millions de travailleurs à travers le globe, mais aussi et surtout un marché pesant aujourd'hui des dizaines de milliards de dollars. L'essentiel de cette puissance économique, de ce marché que vous décrivez dans cet extrait de votre ouvrage, par quel secteur est-il porté? Est-ce que tout se vaut en termes de marché dès lors qu'on parle du spatial?
Alors c'était la difficulté de saisir le spatial autrement que par ces activités qui sont les unes à côté des autres, effectivement, le militaire, le civil, les télécommunications, etc. Du coup, comme on l'a fait de façon plus sociologique, on a parlé de champs, d'activités, d'acteurs qui sont plus ou moins d'accord entre eux, qui sont potentiellement en conflit selon la définition qu'on donne aux champs en sociologie. Tout ne se vaut pas. S'il fallait définir un marché premier, de toute façon, dans le spatial, ce serait d'abord les marchés militaires. Et quand on parle de marché, il faudrait d'abord être vigilant sur ce mot et peut-être parler de dépenses publiques, d'une certaine manière, qui sont, la plupart du temps, en tout cas pour le cas du militaire, de l'exploration spatiale, qui sont à l'origine de tout, finalement. Le marché des télécommunications, il est un peu différent, en réalité, et c'est le seul qui s'autonomise d'une certaine manière dès le début des années 60 avec des actes aux États-Unis qui mettent en place. Alors vous avez parlé, je ne sais plus quel était le satellite qui a été cité, Echo, quelque chose comme ça.
Echo, je l'ai trouvé dans votre ouvrage.
Oui, il y a Echo, Early Bird, Telstar, plein d'entreprises comme ça, comme Lockheed, Hughes-Aircraft, qui vont fabriquer à la fois des satellites de télécommunication dans le cadre d'un consortium qui s'appelle Intelsat aux États-Unis et qui fait face à un autre consortium qui s'appelle Intercosmos, d'ailleurs, en URSS. Les deux vont aussi finir par discuter. Le rideau de fer n'intervient pas tellement, en fait, à ce niveau-là. Il faut quand même que les protocoles se parlent. Et donc ça, c'est un marché qui J'allais dire s'autonomise pas vraiment, en fait, il est quand même toujours sous perfusion publique, mais effectivement, ces dernières années, disons ces 10 dernières années, on constate l'essor de grandes constellations de satellites qui tentent encore plus de s'autonomiser avec des capitaux privés. C'est ça la différence. Et la dernière différence pour déterminer, essayer de dissocier un petit peu le flou dans le spatial, c'est que dans les années 1960, vous n'aviez pas ce lien direct qui était fait entre la destinée manifeste, la frontière que vient de mentionner Paul Vorer, qui sont effectivement des affects à l'origine finalement de la conquête, avec un grand C aux États-Unis notamment, ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des constellations de satellites, notamment chez Elon Musk, Starlink, qui sont envoyés en orbite par une grosse fusée qui s'appelle le Starship, et qui est la fusée qui est pressentie pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune, etc. Et donc en fait, cette fusion du matériel et de l'affect de la conquête, c'était pas vraiment... Enfin, Apollo était assez dissocié, finalement, pour le dire concrètement, des opérations de télécommunication dans les années 1960.
Paul Vorer, vous souhaitiez réagir.
Oui, tout à fait. Il y a une question vraiment... le marché, finalement, dans le spatial, en fait, on voit ces idées d'aller extraire des matériaux, etc. Mais fondamentalement, ce qui a une potentialité de marché, je dirais qu'il n'a même pas toujours une valeur de marché, ça reste des choses qui sont finalement très immatérielles. C'est de la donnée. Fondamentalement, les satellites, c'est des créateurs ou des pourvoyeurs de données qui permettent de transférer de la donnée, les satellites de télécommunication, les satellites d'observation de la Terre, qui peuvent faire à la fois du civil et du militaire, et puis les satellites de navigation. C'est vraiment les trois fonctions principales du spatial. Après, il y a un aspect qui est très très particulier dans le spatial. On a du mal à parler de marché, évidemment, puisque ce sont essentiellement des fonds publics, voire quasiment dans la totalité des fonds publics, mais c'est tout ce qui tourne autour du vol habité, où là, effectivement, il y a quand même des masses assez importantes qui sont envoyées en orbite et qui reviennent depuis l'orbite de la Terre. Mais fondamentalement, tout ce qui, si on parle de la valeur potentielle du spatial, tout est fondé aujourd'hui sur l'économie de la donnée. Et l'idée d'aller récupérer des choses physiques dans l'espace, aujourd'hui, n'a pas de matérialité et fait penser à des choses quand même qui seraient, sinon très lointaines, peut-être inaccessibles.
Spéculative.
C'est le bon mot.
D'où aussi la question de la bulle qu'on va se poser aussi au cours de cette émission. Caroline Amiot-Basile, ce qu'on comprend, et notamment à travers les explications d'Irénée Regnault, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a les fusées, on va le dire ainsi très grossièrement, qui sont finalement des moyens de transport, alors que ce soit pour amener un satellite, une sonde ou une capsule avec des habitants, des astronautes ou pas dedans. Encore une fois, on le comprend, tous ces objectifs n'ont pas la même valeur commerciale, n'ont pas la même potentialité, encore une fois. Il faut distinguer de ce point de vue-là, et là on parle presque d'une géographie de l'espace aussi, une fois qu'on a parlé de mettre sur orbite, on n'a pas dit grand-chose non plus. Il faut distinguer l'orbite basse de l'orbite moyenne, de l'orbite géostationnaire. À chaque strate, on retrouve bien des satellites, mais tous n'ont pas les mêmes fonctions. Comment se répartissent-ils actuellement dans cette géographie de l'espace, Caroline Amiot-Basile?
Alors effectivement, comme vous l'indiquez, donc il y a effectivement d'une part tout le secteur des lanceurs, donc des fusées, secteur qui voilà se développe dans de nombreux pays autour du monde, avec des enjeux attachés de souveraineté, d'accès à l'espace. Donc on a parlé bien évidemment de SpaceX, avec on a parlé de la fusée Starship. On peut parler également dans le domaine des lanceurs de Falcon 9, hein, qui mm-hmm. aujourd'hui est vraiment le lanceur qui aujourd'hui connaît un succès commercial extrêmement fort. Donc, domaine des lanceurs dans lequel on peut aussi mentionner le positionnement de SpaceX sur des enjeux de réutilisation de ces lanceurs. Donc, SpaceX a beaucoup misé sur ces stratégies de réutilisation.
Caroline Amiot-Basile, il faut nous expliquer pourquoi cet enjeu des réutilisations, des récupérations est important et aussi d'un point de vue économique.
Oui, en effet. Donc, l'enjeu de la réutilisation, c'est un enjeu derrière de compétitivité sur les lanceurs. Donc, c'est un choix et une stratégie qui a été adoptée par SpaceX assez tôt. Alors, ce qu'on peut indiquer aussi, c'est que, bien évidemment, côté européen, on travaille également sur ces sujets de réutilisation. Et puisqu'on parle de réutilisation, on peut aussi souligner que l'Europe travaille et progresse sur ses capacités de réutilisation avec plusieurs initiatives, des travaux sur un moteur Prometheus qui sera adapté à la réutilisation, un démonstrateur Thémis également, que j'ai pu visiter pas plus tard que la semaine dernière, où j'étais chez Ariane Group, là, donc où j'ai pu voir à la fois la chaîne de fabrication d'Ariane 6 et puis les activités sur les lanceurs réutilisables. Donc l'Europe aussi travaille dans ce sens et progresse dans ce sens.
Et c'est important de le signifier, effectivement, les États-Unis ne sont pas seuls dans cette optique-là, et on le comprend, Caroline Amiot-Basile, c'est une compétitivité qui passe aussi par l'innovation technologique. Paul Vorer, j'en reviens tout de même à ma géographie spatiale et à mes différentes couches d'orbite, on va dire. La vaste majorité des satellites d'Elon Musk se trouvent en orbite basse, c'est le cas de 85% d'entre eux. Ce n'est pas exactement un hasard, cette proximité vis-à-vis de la Terre, puisqu'on parle là de 500 km, je crois, au-dessus de la Terre. Cela rend aussi le lancement moins cher. C'est un emplacement convoité d'un point de vue économique aussi.
Alors, c'est un emplacement convoité, peut-être moins que les... Si vous voulez, l'orbite de la Terre, on peut la simplifier en disant qu'il y a trois orbites majeures. Les orbites basses, qui... En fait, où on mettait essentiellement avant des satellites d'observation, principalement. Simplement parce que plus vous êtes proche de la Terre, moins vous avez besoin d'un gros télescope pour avoir des images très bien, avec une très bonne résolution. Ensuite, vous aviez les orbites moyennes, c'est-à-dire un petit peu plus haut, enfin même beaucoup plus haut, à 20 000 km, où là, on mettait plutôt les satellites de navigation. C'est là que circulent les satellites Galileo, les satellites du GPS, les satellites Beidou chinois, etc. Et puis, il y a une orbite un petit peu magique, un arc qu'on appelle l'arc géostationnaire, à 36 000 km au-dessus de la Terre, qui en fait, alors plus vous allez haut dans l'espace, plus votre satellite tourne lentement autour de l'astre qui l'orbite. Et il y a une ligne un petit peu magique où le satellite tourne exactement à la même vitesse autour de la Terre que la Terre ne tourne sur elle-même. Et donc il apparaît fixe dans le ciel. C'est pour ça que vous voyez des paraboles qui n'ont pas besoin de bouger pour suivre les satellites, par exemple sur les toits des maisons, pour fixer en fait un satellite. Alors c'est pas que le satellite tourne pas, il tourne, mais il tourne à la même vitesse que la Terre et donc il apparaît comme un point fixe dans le ciel. Et là on met les satellites de télécommunication. Essentiellement, les satellites de télécommunication étaient là, sont encore là d'ailleurs pour une partie d'entre eux, parce que c'est extrêmement pratique d'avoir une antenne fixe qui reste avec un satellite. Et d'ailleurs, historiquement, c'est ça le grand secteur économique du spatial, c'est en fait la télédiffusion par satellite, la télévision par satellite. Et c'était très pratique de mettre des gros satellites en orbite géostationnaire pour pouvoir desservir une grande partie du monde avec de la télévision par satellite. Ce marché a commencé à décroître. Il commence aujourd'hui à vraiment décroître assez fortement. Et donc, on a une forme de transition aujourd'hui avec un nouveau secteur là qui émerge, qui est celui de la télécommunication, là pour le coup à deux voix, où vous parlez au satellite, le satellite vous répond, pour transmettre de l'Internet. Et l'Internet a cette particularité qu'en fait, comme les ondes circulent à la vitesse de la lumière, si elle fait 36 000 km pour rejoindre l'orbite géostationnaire puis revenir avec toutes les pertes en ligne que ça peut avoir dans les appareils, en fait vous avez ce qu'on appelle de la latence, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous cliquez et le moment où vous avez une réponse, eh bien, il se passe du temps. Et le fait de mettre ces satellites en orbite basse, ça permet de réduire ce temps de latence, et c'est quelque chose qui en fait, on ne savait pas à quel point c'était précieux, mais en fait, il s'avère que c'est extrêmement précieux pour beaucoup d'activités. Et le problème que vous avez, c'est qu'effectivement, là, pour le coup, votre satellite, il n'est plus fixe au-dessus d'un point, il tourne autour de la Terre à 90 minutes, et donc il faut en mettre beaucoup pour s'assurer que vous en avez toujours un, à peu près au-dessus de vous, pour pouvoir vous transmettre de l'information.
Et donc, cette stratégie, cette technique-là aussi, permet de maintenir une forme de concurrence, en tout cas, une forme de compétitivité vis-à-vis des réseaux terrestres. En tout cas, c'est le but affiché aussi des constellations d'Elon Musk. Vous avez parlé de l'opportunité technologique aussi, cette idée d'en avoir beaucoup pour avoir toujours un point de fixation, avoir toujours une forme de présence aussi. Irénée Regnault, il y a une autre raison pour laquelle on s'est rendu compte de l'importance aussi de ces satellites, alors qu'elle est beaucoup plus géopolitique. On s'en est rendu compte notamment à l'occasion du début de la guerre en Ukraine, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elon Musk a mis ses 3200 satellites à la disposition de Kiev dès le 24 février. À ce moment-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait aussi une faiblesse structurelle des réseaux terrestres et que donc les satellites pouvaient potentiellement représenter, alors pas nécessairement un marché, mais en tout cas une opportunité réelle.
Alors oui, c'est certain. Faiblesse des satellites, des réseaux télécommunications terrestres, donc qui effectivement sont dans une certaine mesure, à certains endroits, concurrencés par ces constellations en orbite basse, surtout dans des endroits où il n'y a pas de connexion, où on peut pas tirer la fibre, où c'est éventuellement du désert. Donc ça c'est important parce que ça fait diminuer quand même le territoire adressable par ce type de satellite. À Paris, par exemple, qui est un territoire qui est relativement bien fibré, et même en France, en réalité, où les zones blanches sont plutôt rares, hein, ça se compte en quelques pourcents, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à avoir des satellites Starlink ou autres. Mais c'est aussi donc une concurrence au réseau de télécommunications, puisque dans ces zones-là qui sont désertiques, les habitants et les habitantes potentiellement utilisent ces réseaux de télécommunications avec la latence que décrivait tout à l'heure Paul, et donc Starlink s'avère un service beaucoup plus utile. Mais effectivement, une fois que vous avez maillé l'ensemble de la planète avec quasiment 8000 satellites aujourd'hui pour Starlink, d'autres constellations qui arrivent derrière, hein, Kuiper, celle de Jeff Bezos, à peu près tous les pays s'y mettent, la Chine avec leur réseau national, l'Europe avec son programme Iris Carré, effectivement vous êtes en mesure de délivrer potentiellement Internet au sol, à condition d'avoir, en tout cas à cette époque-là, des stations relais. Alors, les stations relais de Starlink sont toutes petites, en fait. Elles sont beaucoup plus petites, par exemple, que les stations relais de Kuiper. Et elles coûtent beaucoup moins cher. Donc, il en a diffusé un certain nombre, en l'occurrence, c'était quelques milliers, genre 30 000, quelque chose comme ça, au début du conflit. Bon, elles sont arrivées par camion. Et effectivement, ça permet de s'assurer une continuité de service pour des télécommunications au sol pour l'armée, pour également les drones qui sont très utilisés en Ukraine. Et ça pose des questions plus profondes, d'une certaine manière, sur la possibilité de donner un accès à Internet, aujourd'hui même sans station relais, en fait, hein, avec les dernières technologies qui peuvent être développées, à des pays où Internet serait coupé. Et donc effectivement, il y a une puissance géopolitique qui est inscrite dans la technique d'une certaine manière. Alors, juste une incise, est-ce que c'est Elon Musk qui décide de ça, ou Elon Musk et les États-Unis et le Pentagone, etc. Ça reste une question quand même. On peut pas tout mettre dans les mains d'Elon Musk qui déciderait tout seul sur un terrain si critique.
Caroline Amiot-Basile, vous souhaitiez réagir lorsque nous évoquions justement la puissance et aussi la compétitivité de ces satellites, et notamment ceux situés en basse orbite.
Oui, je voulais revenir sur la bascule qui finalement s'est opérée entre le marché traditionnel des télécommunications, qui était comme ça a été indiqué un peu avant, le marché géostationnaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est effectivement le marché des satellites géostationnaires représentait en fait un marché commercial ouvert sur lequel notre industrie européenne, et plus particulièrement l'industrie française, était extrêmement compétitive. Donc on a en France et en Europe toute une filière industrielle qui est une filière de pointe, hein. Donc la France est une nation spatiale qui a investi depuis longtemps sur le secteur et qui a une industrie très très performante. Et cette industrie était particulièrement performante, effectivement, sur le marché des satellites géostationnaires, qui se trouvaient, comme ça a été indiqué un peu avant, être également le marché commercial ouvert, finalement, principal du domaine spatial. Donc, effectivement, avec l'arrivée des constellations, ce qui se passe, c'est que ces chiffres d'affaires qui alimentaient notre industrie de façon assez structurelle depuis de nombreuses années est en baisse. Et comme ça a été indiqué, aujourd'hui on constate finalement une migration du trafic de connectivité et d'Internet qui migre de ces satellites géostationnaires vers les solutions alternatives de type constellation. Et donc ça signifie que le marché des satellites géostationnaires aujourd'hui est en baisse en termes de chiffre d'affaires, en termes de commandes, et donc c'est un manque à gagner pour notre industrie. Voilà, donc il y a de réels enjeux industriels aujourd'hui à ce tournant-là.
Paul Vorer, est-ce que la prise de conscience géostratégique, géopolitique aussi, lors du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a aussi généré quelque part une forme de prise de conscience plus économique aussi pour les acteurs des télécoms? Est-ce qu'on s'est rendu compte que c'est une marche qui n'avait pas été prise que celle de ces satellites basse orbite, qu'on n'avait pas investi au bon endroit, au bon moment? J'étais assez surprise en lisant un article du Monde de voir qu'effectivement, il y avait beaucoup de spécialistes de ces réseaux qui estimaient que ne pas investir dans les constellations satellites avait été une erreur, comme il l'avait fait pour les câbles sous-marins. Est-ce qu'on a attendu 2022 pour se rendre compte des potentialités de marché de ces satellites-là?
Je pense que là, pour le coup, au niveau géopolitique, il y a eu une prise de conscience plus générale que les dividendes de la paix avaient été fortement consommés depuis 30 ans et qu'on se retrouvait avec des problèmes plus stratégique que ça au niveau des dépenses dans la défense, et c'est ce qu'on essaie de rattraper petit à petit. Et donc forcément, on a des trous capacitaires un petit peu partout, et le spatial en fait partie. Dans le spatial, d'ailleurs, on est extrêmement dépendant des capacités américaines, que ce soit pour le renseignement, encore un peu pour la navigation, même si Galileo commence à arriver. Et pour les télécommunications, effectivement, on voit qu'il y a eu un gap technologique qui a été franchi par les Américains avec Starlink, qui les a un peu surpris eux-mêmes. Hein, très honnêtement, les analystes américains s'attendaient pas forcément à ce que ça ait une efficacité opérationnelle aussi importante. Et pourtant, c'est vraiment le cas. Et aujourd'hui, la faible latence permet des choses qu'on n'envisageait pas. Donc, cependant, on a quand même en Europe un opérateur qui s'appelle Eutelsat, qui dispose d'une constellation qui s'appelle OneWeb, permet de fournir aussi des services de télécommunication faible latence, etc. Pas selon les mêmes modalités nécessairement, mais c'est pas quelque chose sur lequel on est complètement en retard. Ça a permis aussi de lancer, grâce à cette expertise qu'évoquait Madame, le fait que c'est quelque chose qui est tout à fait accessible à notre industrie finalement. C'est quelque chose qu'on saurait faire.
Parce qu'on
a des grands groupes, parce qu'on a des compétences immenses, et que notre industrie est tout à fait capable à la fois de produire et de lancer ce type de constellation. C'est d'ailleurs le projet Iris Carré. Après, ce sont des projets qui sont un petit peu plus petits que les projets américains, à mon sens, parce que l'investissement ne nécessite pas nécessairement les montants qui sont consentis aux États-Unis si on se limite aux, disons, besoins d'autonomie stratégique qui ont été identifiés par la guerre en Ukraine et qui nécessitent effectivement, là pour le coup, d'être autonome dans une certaine mesure. Mais comme il reste un point d'interrogation, disons, sur la pérennité de ces marchés. Aujourd'hui, Starlink est tout seul, si vous voulez. Demain, il y a des concurrents qui arrivent. Il y a Kuiper, donc de Jeff Bezos. Est-ce qu'il y aurait de la place pour, en plus, un concurrent européen pour entrer sur un marché ouvert qui est déjà très concurrentiel, etc. Il y aura sûrement des niches sur lesquelles ce serait intéressant. Mais aujourd'hui, il y a un petit peu d'interrogation sur la réalité, disons, des potentialités de marché. On peut évoquer le marché de la mobilité, les avions, les navires, etc. Mais on n'est pas certain qu'il y ait vraiment un très très grand marché qui s'ouvre. Par contre, d'un point de vue technique pour les militaires, ça est extrêmement efficace, effectivement. Et ça a démontré son efficacité en Ukraine.
Irène Regnault.
Alors, sur cette question, c'est toujours un peu délicat de regarder dans le passé ce qu'on a raté, dans la mesure où il y a eu des tentatives de constellation de satellites à la fin des années 2000, qui ont pour la plupart d'entre elles périclité ou qui sont tombées dans l'escarcelle de l'État fédéral américain, parce qu'elles n'étaient pas rentables au moment où arrivait la norme GSM et en fait les téléphones, tout simplement, d'une certaine manière. C'est vrai que le pari du réutilisable, parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que les constellations de satellites, donc des milliers de satellites en orbite basse, n'ont d'intérêt financier que si le coût de lancement est très bas et que vous lancez beaucoup. C'est de l'optimisation d'actifs. Si vous avez une fusée que vous récupérez 20 fois, bah elle vous coûte 20 fois moins cher, bon, toute chose égale par ailleurs, que si vous la tirez une seule fois. Donc effectivement, l'Europe n'a peut-être pas vu venir le coût du réutilisable à foison. En revanche, l'idée de se dire qu'on allait envoyer des milliers de satellites en orbite, c'était pas forcément une évidence, en fait. Mmh. L'intérêt du spatial, c'est le point haut, d'une certaine manière. C'est que vous avez ce satellite, donc en orbite géostationnaire, par exemple, à 36 000 km, qui peut irriguer sur toute une partie de la planète. Vous avez des satellites de géolocalisation, GPS, Galileo, etc. Il vous en suffit de quelques dizaines, et en réalité même quatre, pour que toute la planète ait accès au service. Donc, rentrer dans ce marché de masse, avec des effets de bord, puisque derrière, il y a des problèmes sur la congestion, il y a des problèmes sur la pollution qui est liée au lancement, sur la pollution qui est liée aux rentrées atmosphériques. En fait, les États-Unis ont d'une certaine manière aussi imposé un modèle du spatial qui, à plein d'égards, n'est pas du tout souhaitable, dont la rentabilité est discutable. Ce sont des entreprises qui ne publient pas leurs chiffres, donc on peut pas dire que SpaceX ou Starlink est foncièrement rentable. Ça peut l'être, mais d'une certaine manière, on ne peut pas poser l'équation sans voir le complexe militaro-industriel qui est derrière. Vous n'avez pas SpaceX, Starlink, sans les contrats fédéraux pour les satellites de télécommunications militaires, sans le ravitaillement pour la station spatiale internationale. Pour rappel, hein, SpaceX, c'est 22,6 milliards de subventions détournées ou directes depuis le début 2002. en fait. Donc c'est une entreprise qui est largement subventionnée par la puissance publique.
On va revenir sur la construction, effectivement, de ces liens très forts avec la puissance publique, et notamment en termes de financement. Avant cela, Caroline Amiot-Basile, vous souhaitiez également réagir.
Oui, donc pour déjà indiquer que je suis vraiment en ligne avec ce qu'ont indiqué les deux intervenants précédemment. Aujourd'hui, on a réellement des enjeux d'ordre à la fois de souveraineté et industriel au niveau européen sur le sujet des constellations. Donc, à ce titre, le projet Iris-Carré est vraiment un projet stratégique, hein, à la fois d'un point de vue souveraineté et industriel. Comme le disaient les intervenants précédemment, on a une industrie en Europe et plus particulièrement en France, hein, qui est de très 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 haut niveau, avec de l'expérience dans les constellations. Hein. On peut indiquer que nos maîtres d'œuvre industriels, Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, ont de l'expérience et de l'héritage aussi dans le domaine des constellations. OneWeb, Iridium Gen 2. Donc c'est des technologies qui sont bien connues en France et en Europe. Une des spécificités que l'on a dans le modèle européen par rapport au modèle américain, c'est qu'aujourd'hui, un SpaceX est extrêmement verticalisé. Donc il va à la fois fournir le service, mais il va intégrer toute la chaîne de la valeur, des lanceurs jusqu'au satellite, jusqu'au terminal, avec un effet de renforcement entre lanceurs et satellites qui a été évoqué, hein, avec l'effet de massification des lancements et des satellites. Finalement, c'est deux secteurs qui se renforcent mutuellement. Donc en Europe, quand on parle de Telsat, on est sur un schéma qui est quand même très différent, avec donc un acteur Telsat qui est un opérateur, donc qui va fournir un service, mais qui n'est pas le fabricant ni des lanceurs ni des satellites.
Le programme Iris-Carré pour infrastructures de résilience et d'interconnexion sécurisées par satellite. On continue de parler de ce projet européen dans Entendez-vous l'écho sur France Culture dans quelques instants.
Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux pour atteindre la planète Vénus, quelques millions de kilomètres et plus? Tout se passa pour le mieux à l'aller. Les deux cosmonautes étaient enchantés. Ils l'étaient moins au moment de repartir, quand la fusée refusa d'obéir. Car les stations de dépannage sont loin d'encombrer l'horizon. Ce sont les risques d'un voyage avec une fusée d'occasion. Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux? Une occasion même bien révisée peut bien avoir quelques vices cachés. Avec une clé anglaise et un marteau, ils essayaient de réparer l'oiseau, en se disant, puisqu'il est bien venu, y a pas de raison pour qu'il ne reparte plus. Car les stations de dépannage sont loin d'encombrer l'horizon. Ce sont les risques d'un voyage avec une fusée d'occasion. Mais dites-moi, est-ce vraiment sérieux de s'embarquer dans un engin douteux sur la bonne foi d'un marchand d'occasion qui doit tout vendre, le mauvais et le bon? Une fusée de première main, je veux bien, sans aucune tache sur les coussins, je veux bien, pour un simple vol orbital, d'accord. Mais pour Vénus, j'estime que c'est un tort. Au prix où sont les dépannages d'une voiture dans Paris, partir comme ça dans les nuages, j'estime que c'est de la folie, de la folie, de la folie, de la folie.
La fusée d'occasion de Jean Payot, Entendez-vous l'écho, se penche aujourd'hui sur les investissements qui justement permettent d'avoir recours à du matériel un peu plus performant que cela pour partir à la conquête du marché spatial et notamment celui des satellites. Et nous sommes toujours en compagnie de Caroline Amiot-Basile, sous-directrice synthèse stratégie et observatoire au sein de la direction stratégie du CNES, d'Irénée Regnault, essayiste doctorant à l'EHESS INSA et co-auteur avec Arnaud Saint-Martin d'une histoire de la conquête spatiale des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space paru l'année dernière. Lambert, et de Paul Vorer, responsable du programme Espace de l'Institut français des relations internationales. Alors le 16 décembre 2024, la Commission européenne a donné son feu vert afin de commencer les travaux industriels dans l'espoir de doter l'Union européenne de son propre réseau Internet sécurisé. C'est tout l'enjeu du projet IRIS-CARE. Paul Vorer, il a fallu 2 ans de négociations pour aboutir à cette annonce de la part de la Commission européenne. Qui finance ce projet-là et quelle est réellement son ambition? Est-ce que c'est vraiment de concurrencer effectivement la présence américaine à travers la société d'Elon Musk?
Alors, d'après les informations qu'on a, ce serait un partenariat public-privé de l'ordre de 10 milliards d'euros, financé à hauteur de 6 milliards par le public et 4 milliards par le privé. L'objectif, il est principalement de créer une infrastructure publique servant des besoins stratégiques et de souveraineté. Hein. C'est dans le titre d'ailleurs, c'est de mettre en place une infrastructure qui permette à la fois à des utilisateurs de sécurité civile ou gouvernementaux de services publics d'avoir accès à ce type de capacité. On peut penser aux pompiers en opération, on peut penser aux sauveteurs en mer, etc. Mais aussi pour la défense, parce que comme on le disait précédemment, on s'est rendu compte de la grande efficacité de ce type d'infrastructure. Et effectivement, avoir une infrastructure de ce type, alors il y a des potentialités de marché visiblement qui ont été détectées également. C'est pour ça aussi que les acteurs privés investissent dans ce type d'infrastructure pour s'assurer de profiter de marchés qui potentiellement pourraient s'ouvrir. Mais je pense que le cœur fondamentalement de cette infrastructure, c'est d'avoir une forme d'autonomie stratégique vis-à-vis notamment des Américains et de toutes les autres solutions qui peuvent exister sur le marché, pour s'assurer qu'il y a une maîtrise, disons, de la chaîne de la production de la donnée et de la maîtrise de la donnée qui soit européenne de bout en bout, depuis la fabrication du satellite jusqu'à l'exploitation de la donnée en passant par le lancement des satellites.
Alors justement, je vous propose d'écouter la voix d'Eva Bernecki, la directrice générale d'Eutelsat pour quelques jours encore jusqu'au 1er juin prochain. C'était sur CNN en mars dernier.
Eutelsat est la seule constellation de satellites au monde opérationnel avec Starlink. Nous sommes capables de fournir aux gouvernements et aux entreprises partout dans le globe. Et même si nous ne nous adressons pas aux consommateurs directement comme Starlink, nous pouvons fournir aux gouvernements, y compris l'Ukraine, et aux entreprises une couverture et une haute performance avec notre réseau de basse orbite. Nous avons une capacité moindre, car nous avons moins de satellites que Starlink, mais notre système est pleinement opérationnel partout en Europe, y compris en Ukraine. Il faut de la concurrence. Nous avons besoin d'alternatives dans le monde de la connectivité, comme c'est déjà le cas dans le monde des télécoms. Typiquement, les consommateurs ont le choix entre plusieurs opérateurs téléphoniques, donc je suis très engagée pour que les gouvernements aient aussi le choix, y compris en Ukraine.
C'est là où il faut peut-être distinguer les modèles aussi de fonctionnement. Caroline Amiot-Basile, là où Starlink s'est tournée vers le grand public, Eutelsat mise plutôt sur les entreprises, le transport aérien et maritime ou les besoins des gouvernements. Eva Bernecki, la directrice donc générale d'Eutelsat, disait en 2022 que le segment du business to business, donc le commerce inter-entreprise, représente les 3/4 du marché de la connectivité et sa croissance devrait y être de 14 à 15% par an. Nous avons reçu beaucoup de marques d'intérêt de la part des militaires et notre réseau est utilisé par la base américaine au Groenland. C'est effectivement une piste de développement pour Eutelsat, Caroline Amiot-Basile.
Alors tout à fait, hein, effectivement, vous avez raison de distinguer le marché du business to business du marché du grand public. Et en effet, aujourd'hui, le positionnement d'Eutelsat dans la capacité d'offrir une offre indépendante de celle de Starlink, et c'est, je pense, quelque chose sur lequel il y a effectivement de la demande, des besoins. Et en effet, par contre, sur le marché du grand public, on a cité tout à l'heure les différences d'échelle entre les constellations les constellations européennes et constellations américaines. Et donc, effectivement, quand il s'agit de délivrer un service pour le grand public, là, ce sera plus difficile pour Eutelsat de se positionner.
Cela dit, Paul Vorer, si je reprends le fil de notre réflexion, on se rend compte qu'il y a potentiellement une forme de contradiction aussi. Vous l'avez dit, le secteur ne se porte pas nécessairement bien, notamment du fait que la télévision est moins porteur aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques décennies. Tout est encore exprimé en termes de potentialité, de puissance, mais on ne sait pas encore exactement où tout cela va atterrir ou quels seront les besoins. On pressent, en tout cas, on est en train de sentir que potentiellement Eutelsat est aussi une entreprise en difficulté financière. On a appris le lundi 5 mai dernier la nomination de Jean-François Fallacher à la tête d'Eutelsat. Il était auparavant le patron d'Orange France. Il prendra ses fonctions le 1er juin prochain. Pour une entité comme Eutelsat, quelles sont les possibilités, quelles sont les voies de sortie, on va dire, vis-à-vis des difficultés un peu structurelles qu'on vient d'évoquer?
Ben, si vous voulez bien, je vais peut-être hors du cas spécifique de Telsat, qui en fait est un peu représentatif effectivement d'une globalité du secteur spatial, je dirais, qui n'est pas seulement européen, hein, même aux États-Unis, les industriels que vous aviez mentionnés au début de l'émission, United Launch Alliance par exemple, est une entreprise qui se porte extrêmement mal aujourd'hui. Il y a énormément d'entreprises qui ont beaucoup de difficultés à faire face en fait à cette pression qui est exercée par cet acteur SpaceX, qui effectivement est arrivé finalement sur, comme on le disait, un marché de la télévision par satellite qui était déjà en décroissance à peu près au moment où il est arrivé, dont les clients finalement étaient friands de la baisse des coûts qui était proposée par ces lanceurs. Donc ça lui a aussi permis, en plus de tout les contrats gouvernementaux qu'il a récupérés, de mettre le pied à l'étrier, et ça lui a permis de créer cette nouvelle ce nouveau débouché des constellations par satellite, dont comme je le disais, qui apparaissent très très intéressantes et générant potentiellement beaucoup de cash flow, hein, comme on dit, mais dont la rentabilité à terme est, sur laquelle il existe encore un point d'interrogation. Donc ce que je veux dire, c'est que le secteur ne se porte pas très bien en général, parce qu'il a été très très fortement concurrencé, et il repose quand même énormément encore, et je dirais presque de plus en plus, sur les programmes gouvernementaux et sur la commande publique, et notamment au niveau militaire. Et c'est là, à mon sens, qu'en Europe, il y a vraiment un énorme déficit, puisque depuis des années et des années, les dépenses gouvernementales, et en particulier dans le domaine militaire, sont beaucoup, beaucoup plus faible qu'aux États-Unis. Si vous prenez les annonces de Donald Trump ces derniers mois, finalement, quand on parle du Golden Dome qui a été annoncé la semaine dernière, on parle aussi d'une injection très importante d'argent public dans un secteur spatial pour développer de nouvelles technologies, etc. Donc c'est de la recherche et développement. On parle de 175 milliards et potentiellement de 25 milliards l'année prochaine. 25 milliards de dollars, c'est déjà plus que l'intégralité du budget annuel gouvernemental en Europe sur le spatial. On est plutôt autour de 15. Donc c'est même un projet qui apparaît comme n'étant pas le principal programme spatial des États-Unis est déjà une énorme injection d'argent, et donc forcément ça crée aussi des marchés et ça crée des débouchés pour des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis.
Irénée Regnault, sur cette annonce effectivement par Donald Trump, cette volonté de mettre en place cette espèce de dôme aussi dit doré, en référence directe aussi à ce qu'avait pu entreprendre dans un passé pas si lointain son prédécesseur Reagan, c'est effectivement ce genre de commande publique qui permet d'infuser dans toute l'industrie et donc de dynamiser aussi l'ensemble des acteurs.
Oui, clairement. Aux États-Unis, structurellement, on a eu les grands programmes militaires et les grands programmes habités, notamment Apollo, qui ont permis de lever une quantité astronomique en fait de deniers publics. Alors pour pour Reagan, donc le projet dit Star Wars, hein, dans les années 80, on était quand même un montant, faudrait déflatter par les prix, mais je crois que c'était pas autant que ça, c'était plutôt entre 40 et 80 milliards à vérifier, peu importe, et de toute façon ça n'a rien donné, mais effectivement ça a permis d'impulser de donner des contrats fédéraux finalement à tout un tas d'entreprises, créer tout un tas de technologies, créer aussi tout un tas de cadres en fait, hein, d'experts qui ont ensuite transité, sont repassés par le public et puis sont revenus dans le privé, pour certains d'entre eux sont allés travailler chez SpaceX notamment. Vous avez, faut suivre ces personnages-là. Et donc là, aujourd'hui, il y a à la fois ce retour, donc cette promesse du dôme. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est un bouclier antimissile, hein, en gros. Hein, on n'en a pas les spécifications complètes, mais il s'agit à la fois d'infrastructures terrestres et spatiales pour arrêter notamment des missiles balistiques intercontinentaux, c'est-à-dire des missiles avec des ogives nucléaires dedans, ce qui est très difficile à faire. C'est pour ça que ça s'est pas fait dans les années 80. Donc potentiellement, en tout cas dans le récit, c'est aussi rebattre les cartes de la dissuasion. Dans le récit, encore une fois, parce qu'il est pas sûr que ça aille jusqu'au bout, il est pas sûr que ça marche. Mais d'une certaine manière, c'est une relance par les fonds publics, quoi. C'est quasiment une politique keynésienne, d'une certaine manière.
Sachant que le coût estimé du projet, selon Donald Trump, est de 175 milliards de dollars, et selon le Congress National Budget Office, il est de 542 milliards. Ce sont donc.
Mais vous aurez toujours, c'est juste là-dessus, c'est ça qui est intéressant dans le spatial, c'est que c'est un cimetière de promesses non tenues. Vous avez nécessairement des projets qui sont, alors là, c'est le militaire, mais ça sera pareil sur Mars. La validité de retour sur Mars aujourd'hui, elle a été estimée à la fin des années 80 à 500 milliards de dollars. Alors, c'est pas les mêmes technologies, etc. Mais on est dans ces ordres de grandeur-là. C'est ça aussi la force du spatial américain. C'est qu'il peut toujours pointer vers un nouveau point de fuite qui est soit militaire, soit finalement une sorte de domination, de space control, voilà, c'est vraiment les doctrines militaires américaines, soit de promesses d'échappées cosmiques pour aller miner des matériaux sur Mars, etc. Et donc, les technologies qui retombent de tout ça font que, vous êtes nécessairement dans une sorte de suivisme, et c'est toujours la question. Innover, c'est quand même décalé. Est-ce que l'Europe doit suivre avec des milliers de satellites? C'est sûrement pas sûr. Donc, l'option Iris, c'est sûrement préférable avec, je le rappelle, Iris, c'est moins de 300 satellites. Hein.
Paul Vorer.
Oui, mais je voulais suivre peut-être là-dessus. Effectivement, on parle beaucoup de deniers publics et d'argent public, mais fondamentalement, ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire que sans les investissements publics, le secteur spatial n'existe pas. Et en fait, il existe pour de très bonnes raisons. C'est qu'il fournit des services publics. Après, ces services publics, ça peut être du domaine militaire, ça peut être dans le domaine civil, mais typiquement en Europe, on a beaucoup insisté sur la science. C'est comme ça que l'agence spatiale européenne est née, en fait, fondamentalement. C'est en pariant sur la science spatiale et sur le fait que tout le monde pouvait s'accorder à coopérer pour faire de la science spatiale. Et puis, au niveau de l'Union européenne, on a un programme qui s'appelle Copernicus pour l'étude du climat. Au niveau de Galileo, on a également le programme de navigation Galileo. Tous ces services fournissent, en fait, des services publics. Donc, c'est pas des entreprises qui peuvent les fournir. C'est forcément payé par la puissance publique à terme. Mais ce ne sont pas, en soi, des subventions. Ce sont vraiment des politiques publiques qui sont mises en place, et ça représente aujourd'hui quand même la majorité encore des revenus du secteur et de l'industrie. Donc on parle énormément de ces marchés parce qu'il y a une volonté, disons, de les faire émerger d'une certaine manière, que ce secteur arrive à réussir sans avoir besoin de l'appui de la puissance publique. Mais si on regarde quand même les services publics qui sont fournis par le spatial, c'est quelque chose qui est vraiment très très impressionnant aujourd'hui et qui donc justifie de fait ces dépenses.
Et Caroline Amiot-Basile, vous souhaitiez réagir.
Au CNES, on suit les investissements publics privés dans le secteur spatial. On estime que on est entre 85 et 90% à l'échelle mondiale d'investissements dans le secteur qui sont des dépenses publiques. Et donc, effectivement, à la fois, on est une transformation par le privé, mais des dépenses qui restent publiques. Et dans cet environnement-là, les États-Unis ont historiquement toujours été des grands investisseurs dans le secteur spatial. Sur la période 2021-2027, donc la Commission européenne a investi 15 milliards d'euros dans le secteur spatial. Et quand on se projette sur la prochaine période, 2028-2034, on parle de 40 à 50 milliards d'euros. Donc on est sur vraiment une croissance institutionnelle européenne au niveau de la Commission sur le secteur.
Irina Renaud, vous souhaitez réagir. Et puis moi, je voudrais aussi vous poser une question, histoire d'avoir une perspective un peu plus historique aussi. Finalement, cette commande publique qui est très importante, ce n'est pas un phénomène nouveau, loin de là. C'est ce qui a permis, vous l'avez dit déjà au cours de cette émission, c'est ce qui a permis aussi à certains acteurs dits privés, en fait, d'émerger, de construire tout leur modèle économique. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec cette notion de commande publique, c'est que vous le dites aussi dans votre ouvrage, dans les années 90, en fait, c'est la commercialisation de ce qui était auparavant du service public, mais en tout cas des données publiques, notamment d'observation de la Terre, qui a permis aussi à ces acteurs privés de trouver un modèle économique. Finalement, on y revient aussi aujourd'hui, Irène Regnault.
Alors, il y a une longue histoire de la mise en marché du spatial qui, en fait, remonte quasiment à la fin des années 70.
Bien sûr. J'ai...
avec des actes, encore une fois, par Reagan, qui concernent à la fois la reconnaissance, donc privatisation ou tentative de privatisation. C'est pas toujours fructueux, comme avec la reconnaissance, là, l'imagerie. Je pense à Landsat, par exemple, grand programme de la NASA. Mais aussi la navette, en fait, qui est déjà la navette spatiale dans les années 80. Donc, le véhicule qui revient sur Terre, qui est déjà présenté comme, comme une façon d'aller mettre en marché l'espace, de faire des expériences. On a toute une rhétorique aussi du retour scientifique qui vient se positionner ici. On pourrait passer par la libéralisation aussi du GPS. Finalement, quand vous rendez le GPS public et accessible, vous libérez la possibilité d'une économie qui va de votre voiture jusqu'à Tinder et Uber. Vous n'avez pas de Tinder, vous n'avez pas de GPS, en fait. Donc, faut bien voir que c'est des mécanismes de déblocage. Mais juste une insiste sur un point qui me semble intéressant, c'est que effectivement, toutes ces technologies sont issues du public. Il peut y avoir forcément, il y a des entreprises qui travaillent et qui sont privées, qui dépendent de cette puissance publique. Donc, il y a du privé et des sous-traitants en cascade absolument dans tous les coins. Et c'est très bien, puisqu'il faut quelque part avoir un tissu industriel solide. Mais il y a quand même un tournant dans le capital risque au détour des années 2000, avec des fonds privés qui interviennent. Alors, c'est un pouillème de ce que représente la puissance publique, mais ça existe. Et ça repose souvent sur des promesses qui souvent se cassent la figure. Je pense notamment, par exemple, à l'extraction de minerais par des astéroïdes. Il y a une bulle spéculative qui a explosé dans les années, à la fin des années 2000, 2019, 2010. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête, puisque en Europe, on a toujours... C'est un peu comme le mythe du garage dans le numérique. On vous fait croire que Steve Jobs a construit ou Bill Gates son ordinateur tout seul dans son garage. Non, il y a eu 40 ans de complexe militaro-industriel avant. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on arrive à tempérer ces... Allez, je vais le dire un peu, ces velléités de start-upisation du spatial, là où, en réalité, il y a besoin de stratégie, de politique publique, pourquoi pas un peu de capital risque, Je ne dis pas qu'il n'en faut pas du tout.
Mais en tout cas, une vision industrielle.
En tout cas, une vision industrielle, et ne pas confier seulement à des gens qui veulent du retour sur investissement des choses là où il n'y aura pas de retour. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits, notamment par exemple dans les micro-lanceurs, il y a beaucoup de gens qui investissent dans les micro-lanceurs aujourd'hui, dans les stations orbitales. Alors si c'est de l'argent privé, franchement, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais quand ça devient de l'argent public, on sait pertinemment qu'il n'y a pas ou peu de marché, là ça devient un problème politique beaucoup plus important.
Paul Vorer, et ensuite j'aurais une autre question à caractère historique pour vous, Yves de Rignot.
Non, c'était pour dire exactement la même chose, en fait, d'une autre manière. C'est-à-dire que le spatial, finalement, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Il faut bien s'en rendre compte. On fait des choix selon ce qu'on souhaite, mener en termes de politique publique. Effectivement, on a parlé de la libéralisation, finalement, d'infrastructures dans les années 90. C'est plutôt ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de réel business qui s'ouvre à partir du spatial. Mais par contre, quand on couple le spatial aux technologies de l'information, là, on peut commencer à voir émerger des choses. On peut voir des Google Maps, on peut voir des... disons que le spatial, les données spatiales peuvent servir un petit peu de fond de carte à d'autres types d'applications et à d'autres types de capacités. Vous avez tous une puce GPS dans votre téléphone. Est-ce que ça compte dans l'économie du spatial? C'est très compliqué à avoir. Vous voyez, il y a des manières de compter deux fois un petit peu partout. Donc, c'est beaucoup plus une question de politique publique et qu'est-ce qu'on veut tirer du spatial. Et il y a des vrais enjeux aujourd'hui, des enjeux climatiques, effectivement, des enjeux scientifique naturellement d'exploration, il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui d'autonomie stratégique, de souveraineté et de défense. C'est là aussi où fondamentalement la puissance publique a un rôle insurpassable à jouer et on ne peut pas la remplacer par autre chose. Et là, à mon sens, si on parle au niveau européen, il y a potentiellement des vraies voies de progrès.
Caroline Amiot-Basile, vous souhaitiez réagir et j'avais une autre question pour vous. On le voit, en fait, ce qui compte, c'était effectivement l'idée d'une politique industrielle qui dirait son nom, et notamment au niveau européen. Sauf qu'en attendant, il y a déjà une forme d'incertitude qui pèse de façon très économique aussi sur ces acteurs-là. On apprenait le 16 mai dernier que Thales allait redéployer près de 70% de ses collaborateurs dans le spatial en France suite à la suppression de 1300 postes dans ce domaine, dont 1000 en France. En fait, on a... Ce que vous avez présenté d'ailleurs comme des atouts européens sont déjà en train de pâtir de ce manque de vision industrielle.
Alors en effet, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement aujourd'hui une vraie difficulté liée aux baisses de chiffre d'affaires finalement sur les marchés commerciaux ouverts, hein, et dont pâtissent nos industriels. Et dans ce contexte-là, je rebondis sur les propos de l'importance d'une vision stratégique institutionnelle. Il est intéressant peut-être de faire le lien aussi avec la démarche actuelle, hein, qui a été annoncée par le Premier ministre François Bayrou, le 6 mars, d'élaboration d'une stratégie spatiale nationale. Donc c'est une mission qui a été confiée au SGDSN, le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale, et qui est chargée de coordonner l'élaboration de cette stratégie en collaboration avec les ministères concernés, donc ministère des Finances, ministère de la Recherche, ministère des Armées, et avec une forte mobilisation du CNES également sur l'élaboration de cette stratégie. Donc je pense qu'à un moment où il y a effectivement des mutations à la fois technologiques, à la fois économiques et à la fois géopolitiques, il y a une vraie prise de conscience des enjeux stratégiques et institutionnels sur le secteur du spatial.
Irène Regnault, je voulais ouvrir en cette fin d'émission sur un autre point. Il y a deux aspects qui ont énormément fait parler, mais pour l'ensemble de l'économie européenne. Il y a celle exprimée en septembre dernier par Mario Draghi d'un retard européen, notamment vis-à-vis des États-Unis sur un très grand nombre de domaines qui concernent notamment l'innovation et le numérique, mais aussi le spatial, ça a été mentionné. L'autre grand événement qui a frappé l'économie mondiale, c'est évidemment la mise en place de taxes et de droits de douane par Donald Trump. En fait, dans quelle mesure ça aussi, ces deux éléments-là, d'un point de vue historique, on pouvait déjà les retrouver à partir du moment où, dès le départ, les États-Unis ont mené une forme de politique protectionniste aussi vis-à-vis du domaine spatial, et en empêchant aussi, quelque part, d'un point de vue législatif, l'Europe aussi de commercialiser ou d'avoir en tout cas accès à ces données.
En fait, c'est les États-Unis impulsent une certaine vision du spatial, et sans même passer par l'augmentation des droits de douane ou cette rhétorique du retard qu'il faudrait discuter, hein, parce que en retard par rapport à quoi, etc. Ils ont quand même beaucoup eu dans l'histoire des stratégies d'éclatement de projets industriels européens. Alors, il y en a partout dans le numérique, mais aussi d'une certaine manière dans le spatial. L'adhésion de la France et de l'Europe à la station spatiale internationale, c'est une façon aussi, hein, il n'y a pas que ça, mais pour les États-Unis, de récupérer des cerveaux européens, de les faire intervenir sur un projet qui dirige eux. Hein, et donc l'Europe doit retrouver, mais bon, c'est, je vais dire, impensif, mais une autonomie stratégique dans ce domaine-là comme dans d'autres. Mais la question, c'est moins le retard. Enfin là, j'arrive sur un terrain plus normatif et politique, mais c'est plus les besoins, quoi. C'est pourquoi on fait du spatial d'une certaine manière. Qui décide? Quelle est la place du CNES? CNES qui a changé de ministère de tutelle aussi, qui est passé sous un autre ministère en 2021. Ça a créé quand même des problèmes. Quelle est la place des syndicats? Vous avez parlé d'Airbus, Thales, Alenia Space. Ce sont des milliers de gens qui sont plus ou moins sur le carreau. Quelle place on leur donne aussi? Donc la question, c'est une question de démocratisation de la décision stratégique qui ne repose pas que sur la compétition avec les États-Unis, mais sur des besoins fondés en raison scientifique, climatique, militaire, parce qu'il y en a aussi besoin. C'est ça dont on a besoin, pour terminer sur une note normative.
À propos d'avenir et de progrès techniques, une expérience est aujourd'hui suivie de très près par les téléspectateurs, puisque c'est une expérience qui leur promet une lucarne singulièrement élargie aux dimensions du monde, grâce à des satellites dont Telstar est sans doute le premier maillon d'une chaîne. Telstar est aussi notre station bretonne. Donc, ce matin, Pascal Rossini, ce premier satellite de télétransmission américain a été lancé.
Il a été lancé à 9h30. 3 heures après, on annonçait qu'il s'était placé correctement sur orbite, qu'il fonctionnait parfaitement et que ses signaux étaient clairs et puissants. C'est une grande première mondiale. En réalité, c'est plutôt une avant-première.
Une avant-première dont l'un de nos correspondants aux États-Unis, Michel Texier, va pouvoir nous parler.
Pour l'instant, tout se passe selon les plans minutieusement mis au point et qui nous conduisent pas à pas, heure par heure, vers cette nouvelle révolution du XXe siècle, le relais par satellite des communications internationales. La mise sur orbite de Telstar est presque parfaite, nous dit-on de Cap Canaveral. Le périgée de l'orbite s'établit à 954 km au lieu de 900 prévus, l'apogée à 5630 km au lieu de 5400. La vitesse est un peu plus rapide que prévu, mais il ne s'agit là, dit-on, que de marge insignifiante. Nous en arrivons à la première des trois phases prévues, celle des essais proprement américains. échange téléphonique entre villes et plus précisément entre le New Jersey, siège de la société privée Bell qui a construit Telstar, et la station d'Andover à 800 km de là qui émet les messages vers les satellites.
Pour l'instant, tout se passe bien. Le 10 juillet 1962, Interactualité commentait le lancement du premier satellite de télécommunication, Telstar. Et voilà, on aura peut-être fait un tour sur l'histoire. En tout cas, on voit que les choses avancent quand même malgré tout, qu'il manque encore cette vision d'une véritable politique industrielle en matière spatiale. Un grand merci à tous les trois, Carolina Mio, Basile, Irénée, Regno et Paul Vorer, d'avoir participé à cette émission.
4, 3, 2, 1, 0.